Que le Seigneur vous bénisse. Voici l'enregistrement de la bande en simultané de l'ensevelissement en 1957-04-20, Jeffersonville, Indiana. Père Céleste béni, avec la présence du Saint-Esprit déjà ici, nous approchons ta sainte parole. Et bien qu'avec une mauvaise voix, essayant de me retenir et de dire les mots aussi lentement et fluidement que je le peux, je demande que ta divine conduite et l'onction du Saint-Esprit agissant parmi nous ce soir. Et que celui qui est omniprésent prenne la parole de Dieu et la donne à chaque cœur, comme nous en avons besoin. Puisse-t-il nous nourrir ce soir des bonnes choses de Dieu. Et ce soir, pendant que nous parlons de la parole, puissent nos cœurs être ancrés dans les profondeurs du calvaire où Jésus a payé ce prix entièrement suffisant qui était exigé dans les grands jugements de Dieu, dès le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, puissions-nous réaliser que nous sommes librement justifiés par sa résurrection et par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et ce soir, nous ne sommes plus du monde, car nous avons été rachetés au prix du précieux sang du Fils de Dieu. Et puissions-nous, d'un cœur reconnaissant, nous tourner vers toi ce soir, avec toute la pensée et la force et ce que nous avons en nous pour te servir avec un cœur pur et droit. Accorde-le ce soir, Père, s'il y en avait ici qui ne te connaissaient pas dans le pardon de leurs péchés, puissent-ils ce soir venir humblement à la croix et là confesser leurs péchés au Dieu qui est juste pour pardonner. Et que ce soit une soirée mémorable pour nous tous. Nous le demandons au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, nous réalisons qu'il n'y a personne sur la terre qui est suffisamment capable de prendre la parole de Dieu et de la révéler. Parce que la parole est écrite par inspiration. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole. Et quand on cherchait qui au ciel pouvait prendre le livre et en briser les sceaux, il n'y avait personne au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui était digne de briser les sceaux ou même de regarder le livre. Il y avait là un agneau qui avait été immolé dès la fondation du monde. Il est venu et a pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône et a brisé les sceaux et a ouvert la parole. Et ce soir, nous croyons et lui faisons confiance qu'il ouvrira la parole pour nous. Et comme je lis au chapitre 2 des Actes, comme j'en ai parlé, le premier soir, c'était la seconde venue, et du Seigneur Jésus mercredi. Et jeudi soir, c'était sur le sacrifice entièrement suffisant. Et vendredi soir, c'était sur l'expiation entièrement suffisante, le parfait. L'avez-vous saisi hier soir? Parfait. Comment nous pouvons être absolument irréprochables et parfaits aux yeux de Dieu? Et ce soir, c'est sur l'ensevelissement. Et demain, la résurrection, juste comme les jours se suivent. Maintenant, j'ai choisi ce soir pour ma lecture de l'Écriture dans le livre des Actes, le deuxième chapitre et les 25e, 26e et 27e versets inclus. Et nous y lisons ceci, c'est Pierre qui parle. David, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Quel beau texte pour ce soir, pour saisir le contexte de lorsqu'il était dans la tombe. La première chose sur laquelle nous souhaitons attirer votre attention est l'infaillibilité de la parole de Dieu. Dieu garde sa parole à la lettre. Et ce soir, nous voulons fixer nos pensées sur cela. Que Dieu garde sa parole. Nous pouvons être assurés que tout ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité. Et la foi ne repose pas sur les sables mouvants des idées de l'homme ou de la théologie de l'homme, mais elle a son lieu de repos final sur le rocher immuable de la parole éternelle de Dieu. La parole, si Dieu l'a dit, c'est pour toujours la vérité. Il ne peut jamais la reprendre et dire, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je peux dire des choses et vous pouvez dire des choses, puis être enclin à devoir les reprendre parce que nous l'avons dit au milieu de notre connaissance et de notre habileté. Mais là, Dieu est tellement différent de nous. Il est infini. Or, il ne dit rien à moins que ce soit absolument parfait. Il n'a jamais à le reprendre ou à s'excuser pour ce qu'il a dit. Ça demeure toujours la vérité. Même pour Jésus, en ces beaux jours que nous célébrons, quand Dieu a contestablement frappé son Fils pour les péchés du monde, c'était peut-être des milliers d'années avant même que la fondation soit établie, Dieu a prononcé la parole, et c'était une chose terminée au ciel. Quand Dieu l'a dit, c'était déjà achevé. Oh, si nous pouvions seulement saisir ce que cela signifie, quelle personne différente nous serions de voir dans ces livres les jugements qui sont inscrits ici pour la désobéissance. Cela ferait qu'un homme s'examine heure après heure. Et cela ferait que les justes se réjouissent heure après heure de lire les bénédictions que Dieu a promises à ceux qui sont fidèles. Et nous pouvons être assurés que la parole sera accomplie. Ancrons-y simplement notre âme. Il en a toujours été ainsi. Quand Dieu a parlé à Noé, il y a longtemps dans le monde antédiluvien, peut-être bien avant qu'une Bible soit écrite ou cette Bible-ci, de toute façon, a été écrite, Dieu a dit à Noé qu'un orage s'en venait et que les eaux allaient couvrir la terre et que même sans aucune indication, cela allait arriver, tout semblait contraire. Noé a agi avec crainte et a construit l'arche, l'a préparée. C'était pour sauver sa famille et lui-même. Dieu ne l'a jamais laissé tomber. parce que c'était sa parole. Cela devait arriver comme Dieu avait dit que ça arriverait. Maintenant, quand Job, le plus ancien livre de la Bible, qui fut peut-être écrit avant que la Genèse ne soit écrite, il fut inclus dans la Bible et Moïse a écrit la Genèse. Job, dans son livre, se reposait solennellement sur la promesse que Dieu lui avait faite. Et il se tenait près de son holocauste, sans crainte dans son cœur, sachant que ce que Dieu avait dit, Dieu était capable de l'accomplir. Et quand tout semblait aller à l'encontre, Job restait ferme parce que la promesse de Dieu était ferme. Dieu a promis à Job et Job s'est reposé sur cette promesse. Oh, si l'Église pouvait arriver à cet endroit où elle peut se reposer solennellement sur la parole éternelle de Dieu comme étant la vérité. Quelle différence il y aurait? Quelle correction il y aurait? Quelle séparation il y aurait? Quelle joie il y aurait? Quelle puissance il y aurait? Quand les hommes et les femmes prendraient Dieu à sa véritable valeur, qui est la vérité, peu importe les circonstances, cela n'a rien à voir. Dieu l'a dit, c'est réglé. Et Job, alors qu'il était au temps le plus difficile de toute son expérience, qu'il était aux yeux de Dieu un homme juste, même Dieu a dit qu'il était parfait. Et il n'y avait personne comme lui sur la terre. Et Satan reçut le privilège de le tenter en disant, « Je le ferai te maudire en face. » Puis, il a presque pris la vie de Job. Il l'aurait fait, mais Dieu avait dessiné une ligne de démarcation en disant, « Voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. » Alors quand Job est arrivé au moment crucial de la tentation, il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Bien que les vers de la peau détruisent ce corps, je verrai Dieu dans ma chair. » Peu importe à quel point ça semblait sombre et que ça semblait irréel, il y avait quelque chose à laquelle Job avait ancré son âme, la promesse éternelle de Dieu. Oh, si seulement nous pouvions faire ça! Remarquez, il s'est reposé sur la promesse. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je veux que vous remarquiez pour ce que je m'apprête à dire, que Job a précisé son lieu d'ensevelissement. Et quand Job est mort, il a été enterré comme voulu. Il avait un autre homme du nom d'Abraham qui a pris Dieu à sa parole. Et il croyait en Dieu. Et il appelait ces choses qui étaient contraires à la promesse que Dieu lui avait donnée comme si elles n'étaient pas. Il a pris Dieu à sa parole. Et comme les jours passaient et que les semaines et les mois et même les années passaient, cela n'ébranlait nullement Abraham. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Quand tout semblait juste chaque jour, ça devenait simplement plus difficile chaque jour. Mais au lieu de s'affaiblir, Job était fortifié chaque jour. Oh, quelle assurance bénie nous avons! Quand les difficultés semblent s'élever pour rendre les choses que Dieu a promis impossibles, au lieu de reculer et retourner dans le monde, nous devrions être plus fermes que nous ne l'avons jamais été. Sur l'ainsi dit le Seigneur, ça devrait régler la chose. Quand Dieu dit quelque chose, et Abraham appelait ces choses qui étaient comme si elles n'étaient pas, parce qu'elles étaient contraires à la parole. Et quand Abraham a perdu sa femme bien-aimée, Sarah, après de nombreuses années de vie ensemble, il a acheté un lot de terre près de l'endroit où Job avait été enterré, et il a enterré Sarah. Pourquoi? Ils étaient des prophètes. Ils ont vu, ils avaient contacté Dieu. Et aussi, quand Abraham est mort, il fut enterré avec Sarah. Maintenant, il ne voulait pas que ces gens lui donnent ce lot de terre. Il l'a acheté devant des témoins. Quel beau type du baptême! Il l'a acheté devant des témoins, indiquant que c'était sa possession. Et c'est comme ça qu'un vrai croyant devrait venir, non pas se faufiler dans un coin, mais se tenir devant des témoins. Je suis témoin du Seigneur Jésus, du Saint-Esprit et de ses grandes œuvres. D'autant plus que nous voyons s'approcher ce jour mauvais. Et aussi, quand le fils d'Abraham, qui était Isaac, la promesse qui devait lui être donnée lorsqu'Isaac est mort, il fut enterré avec Abraham. Et Isaac engendra Jacob, et quand Jacob est mort, tout là-bas en Égypte. Mais remarquez, avant de mourir, il a dit à son fils prophète, Joseph, viens ici, mon fils, et mets ta main sur ma hanche estropiée. Car il se rappelait comment il était estropié parce que l'ange du Seigneur avait touché sa hanche. Et il boitait depuis ce jour-là. Il a dit, « Mais je te prie ta main sur ma hanche et jure-moi par le Dieu de nos pères que tu ne m'enterreras pas ici, en Égypte. » Pourquoi? Oh, ils avaient la parole. Ils avaient la révélation. Et puis je m'arrête ici pour dire que l'Église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation divine, pas sur la dénomination, l'organisation, pas sur des credos ou des doctrines, mais sur la vérité spirituelle révélée du Dieu vivant. Abel, dans le jardin d'Éden, l'avait quand l'Église a commencé. Comment a-t-il su amener un agneau? Pourquoi n'a-t-il pas apporté des fruits comme Caïn? Mais cela lui avait été révélé. Mais une fois, Jésus a dit, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les uns disent que tu es Moïse, Élie, et ainsi de suite. » Il a dit, « Mais qui dites-vous que je suis? » Vous voyez, cela ne dépend pas de ce que quelqu'un d'autre pense. C'est ce que vous savez être la vérité. Qu'en dites-vous? Cette question est devant le visage de chacun de nous ce soir. Qu'en dites-vous? Et Pierre, prenant rapidement la parole, sans hésiter, a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comme Jésus qui connaissait les secrets de tous les cœurs, car il était nul autre que Jéhovah manifesté dans la chair. Et il a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui a fait cela. Et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et nous, les gens, quand nous venons, nous, luthériens, voulons marcher par la foi. Nous, les méthodistes, voulons crier pour l'obtenir. Vous, les pentecôtistes, voulez parler en langue pour l'obtenir. Mais c'est à 10 000 000 de cela. C'est une révélation divine du Seigneur Jésus-Christ, la personne de son être manifestée dans le cœur. Sur ce roc, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cela s'aligne parfaitement avec Matthieu 5:24 ou Jean 5:24. Celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pas parce que vous avez un agissement, une émotion quelconque, mais parce que vous avez un privilège d'avoir Christ qui vous a été révélé du ciel sur ce roc. Je bâtirai mon Église. Et Jacob, quand il est mort, son fils avait son corps prêt à transporter. Et il a été enterré avec Abraham, Isaac, Sarah et Job dans les terres saintes en Palestine. Alors Joseph était un prophète. Il a prospéré en Égypte. Il connaissait Dieu. Dieu s'était révélé à lui. Et quand il est mort, il a dit, « N'enterrez pas mes os ici, mais mettez quand un jour Dieu vous visitera sûrement. » Pourquoi? Il se reposait solennellement sur la parole de Dieu à Moïse. Pendant 400 ans, ils serviront cette nation, mais je les en ferai sortir. Se reposait solennellement sur la parole. Et quelle belle illustration ici. Si vous remarquez, chaque Hébreu qui passait avec le dos meurtri par des meneurs d'esclaves, quand il regardait les ossements de son prophète Joseph, il savait qu'un jour, ils allaient sortir. Car ses os étaient laissés là pour un mémorial. Qu'un jour, il sortirait. Il y a environ 15 ou 18 ans, quand Billy Paul, le petit garçon d'environ 5 ans, à peine, nous avions une petite fleur que nous apportions à la tombe de sa maman. À l'aube du matin, à Pâques, juste au moment où le soleil se levait, apparaissait, ou c'était juste avant la lumière du jour. Puis nous allions au service. Et comme nous marchions jusqu'à la tombe, le petit garçon a enlevé son chapeau pendant que nous allions là où sa petite sœur et sa mère s'étaient enterrées. Et il s'est mis à pleurnicher et à pleurer. Il a dit, « Papa, est-ce que maman est là dans ce trou? » J'ai dit, non, mon fils, elle n'est pas là dans ce trou. Elle est un million de fois mieux que toi et moi. Il a dit, vais-je revoir maman? J'ai dit, par la grâce de Dieu, si tu le désires, tu peux la revoir. Il a dit, son corps sortira-t-il jamais de cette tombe? J'ai dit, chérie, ferme tes yeux et je vais te raconter une petite histoire. Il y a plusieurs centaines d'années, ce matin, il y avait une tombe laissée vide. J'ai dit, c'est un mémorial pour ceux qui dorment dans la volonté de Dieu. Christ les prendra avec lui quand il viendra. Sans l'ombre de doute, je me repose solennellement sur la promesse éternelle de Dieu. Comme Job d'autrefois, quand nous entendons des cendres aux cendres et de la poussière à la poussière, ça me rappelle Longfellow qui disait, « Ne me dites pas en nombre triste que la vie n'est qu'un rêve vide et que l'âme qui sommeille est morte et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. » Il a dit, « Oui, la vie est réelle, la vie est sérieuse et la tombe n'est pas son but. » Car poussière tu es et tu retourneras à la poussière, n'étaient pas désignés à l'homme. Ils appelaient cela une théophanie, que lorsque nous partons d'ici, nous allons ailleurs. Quoi qu'il en soit, je prends la parole de l'apôtre quand il a dit, si ce tabernacle terrestre ou lieu d'habitation est dissous, nous en avons déjà un qui nous attend pour passer de ceci à cela. Abraham, Isaac, Jacob, Job, tous les prophètes, ils avaient confiance et croyaient qu'une résurrection allait venir, que le Rédempteur allait venir. Ils ont prophétisé de lui. Enoch a prophétisé de lui, se reposant solennellement, scellant son témoignage avec Isaac, Jacob, Daniel, Jérémie, Ézéchiel. Ils se reposaient solennellement sur le moment où le Messie viendrait. Et ils sont morts et leurs âmes sont allées au paradis. Elle ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu parce que nous l'avons vu hier soir, que le sang des taureaux et des chèvres ne pardonnait pas les péchés, elle couvrait seulement les péchés. Parlant d'un jour où le sacrifice parfait parce que le sang de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur, car alors il n'aurait pas cessé d'offrir des sacrifices de ce genre. Mais quand le Fils de Dieu est mort, la vie qui était en lui n'était rien d'autre que Dieu qui revenait pour nous adopter dans la famille de Dieu, et maintenant nous sommes des enfants de Dieu, la vie de son sang. Maintenant, remarquez rapidement, comme nous y suivons, quand dans l'Ancien Testament, et ceux qui ont cru et adoré, ils sont morts dans la foi, en attendant ce moment, la raison pour laquelle ces prophètes ont fait cela et voulait être enterré en Palestine, il savait que la résurrection ne serait pas en Égypte. Elle allait être en Palestine seulement. C'est ce que j'ai dit ce soir. J'ai toutes sortes de noms, peu m'importe de quoi les gens me traitent, ça ne veut rien dire pour moi. La seule chose que je veux faire, c'est de savoir ceci. Que je suis mort, que ma vie est cachée en Christ à travers Dieu et scellée par le Saint-Esprit, que lorsqu'il appellera entre les morts, je répondrai ce jour-là. Enterrez-moi en Christ, car ceux qui sont en Christ seront pris par Dieu ce jour-là. Comment entrons-nous en Christ? 1 Corinthiens 12, 13. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en un seul corps et devenons des concitoyens du royaume de Dieu. Nous professons être pèlerins et étrangers sur cette terre, ne recherchant plus ces choses du monde, mais nous attendons la venue du roi béni qui règne d'une mer à l'autre sans borne quand il viendra dans sa gloire. Certes, nous attendons sa venue. Et alors, aucun doute dans mon esprit que c'est ce que Jésus avait dans sa pensée quand il était ici sur terre. C'était cette infaillibilité de la parole éternelle de Dieu. car nous savons qu'en lui habitait la plénitude de la divinité corporelle. La divinité entièrement était en lui. Il était à la fois le Père, Fils et Saint-Esprit, mais il habitait sous une forme humaine, la théophanie de Dieu, le grand image de Dieu par lequel il a créé l'homme, puis l'a mis dans la terre. Il avait un corps. Dieu n'est pas sans avoir de corps. Dieu a un corps, il ressemble à un homme. Moïse l'a vu, d'autres l'ont vu, il ressemble à un homme. Et c'est juste une impression, ceci est ce que cela est. Et tout sur la terre, la beauté, la douceur, la beauté de la terre n'est rien d'autre dans le monde qu'une réponse à un bien meilleur que cela qui nous attend quand nous quitterons ce monde. Car tout sur la terre n'est qu'une représentation de ce qui est dans le ciel. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est beau, les arbres, les oiseaux, tout n'est qu'une représentation de ce qui est dans le ciel. Notre propre vie n'est qu'une représentation. C'est juste une ombre et pas la vraie chose. C'est le côté négatif. Il faut la mort pour développer la photo, pour nous ramener dans la théophanie d'où nous venons. Ensuite, dans la résurrection, nous arrivons à sa ressemblance. Un corps ressuscité. Quelle belle, non seulement belle, mais c'est la réelle, la solennelle vérité de la parole éternelle de Dieu que nous serons comme lui. Notez maintenant. Jésus investi de toutes les puissances de Dieu, mais quand il a rencontré Satan, il n'a jamais utilisé aucun de ses pouvoirs. Il a seulement fait référence à la parole. Il l'a fait. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors comment pouvez-vous dire que vous pouvez rester à la maison ou être un aussi bon chrétien que vous le seriez à l'église? Vous ne pouvez pas le faire. Lisez la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. La Bible est le régime spirituel de Dieu pour son Église. Et le Saint-Esprit est celui qui vous l'apporte et la place dans le cœur et avec action de grâce vous l'arrosez. Et chaque promesse divine produira exactement ce que Dieu a dit qu'il ferait. Il le faut. C'est sa parole et c'est la vie. Maintenant, j'avais oublié que j'étais censé avoir une demi-heure. Cela me prend tellement de temps pour arriver à ce que je veux dire. Mais remarquez, Jésus, dans les dernières heures ou deux de sa vie, beaucoup, beaucoup de prophéties ont été accomplies. Quelqu'un m'a dit, Frère Branham, ceci doit arriver, cela doit arriver. J'ai dit, ça pourrait arriver en l'espace d'une heure. Si vous lisez le psaume 22, puis regardez sa dernière heure à la croix, j'oublie maintenant combien de prophéties remarquables ont été accomplies dans les deux ou trois dernières heures de sa vie. Certainement. Et ils ont percé mes pieds et mes mains. Mon Dieu, pourquoi m'ont-ils abandonné? M'as-tu abandonné? Et ainsi de suite, comme David s'était écrié, puis une autre chose que je veux que vous remarquiez, la vérité, la partie infaillible de la parole de Dieu. La Bible a dit, il a préservé tous ses os, aucun d'eux n'a été brisé, car dans le type, l'agneau pascal était un type. L'agneau doit être sans défaut, aucun os cassé ne doit se trouver dans l'agneau. Et à l'heure où il était mort, ils sont montés pour casser ses jambes avec un marteau. Et juste avant, regardez ce moment crucial. L'homme au marteau, prêt à frapper ses jambes. Mais la parole de Dieu a dit, aucun des os de son corps ne sera brisé. Comment ça va se passer? Nous devenons pressés. La parole de Dieu est éternelle. Si la parole de Dieu est si parfaite, ceux qui sont en Christ sont aussi sûrs de ressusciter qu'il y a une résurrection. Dieu est tout aussi obligé à sa parole de vous guérir que de vous sauver, car lui, c'est sa parole qui l'a promise. C'est la parole de Dieu, et nous n'avons aucun droit d'en retrancher rien. Mais dites simplement, c'est la vérité. Crois-la, peu importe ce qui arrive, croyez-la, de toute façon. C'est ainsi que le reste d'entre eux ont dû la croire. Et nous en, ne sommes pas exclus de cela. Dieu a donné la Palestine à Israël, mais ils ont dû se battre pour chaque pouce de terrain qu'ils ont obtenu. La promesse est à vous, mais vous devez vous battre pour chaque pouce que vous réclamez. Le diable ira à cela certainement. Mais remarquez, quand ils étaient prêts à briser les jambes de notre Seigneur Jésus, si ce marteau avait frappé la jambe et l'avait brisé, Dieu aurait été trouvé faux. Mais il n'y avait pas assez de diable dans tout ce sombre tourment pour laisser ce marteau frapper ce précieux corps. Pour David, 800 ans auparavant, avait dit, « Aucun des os de son corps ne sera brisé. » La parole de Dieu doit supporter la vérité. Mais qu'ont-ils fait alors? Ils ont pris une lance et l'ont enfoncée dans son côté. Du sang et de l'eau sont sortis pour accomplir ce que la Bible avait dit. Ils ont percé mes mains et mon côté. La parole a été accomplie. Maintenant, quand ils étaient en train de mourir, oh, quelle heure terrible! Je pense à ce chant et honnêtement, je me sens mal à l'aise quand je pense à ce chant. Quand le poète a écrit il y a plusieurs années, au milieu du crépi des roches et des cieux qui s'assombrissaient, mon sauveur pencha sa tête et mourut. Le voile ouvert a révélé le chemin vers les joies du ciel et du jour sans fin. Et quand il était suspendu là, saignant et mourant, quand il a incliné la tête et le soleil a eu si honte de lui-même de regarder en bas les créatures mortelles que Dieu avait faites à son image. Il fallait payer un tel prix pour les racheter. Le soleil a refusé de regarder la terre à cette heure-là. La lune était si embarrassée qu'elle s'est retirée de sa place et les étoiles ont tourné le dos à la terre. Quelle horrible chose doit être le péché, comment Dieu a dû traiter avec cela. Et de voir ces prêtres moqueurs avec de la salive accrochée sur son visage, un homme l'a frappé à la tête avec un roseau et il a dit, « Si vous êtes un prophète, dites-nous qui t'a frappé. » L'un d'eux a tiré la barbe de son visage, l'a frappé au visage et a voulu qu'il se défende lui-même. Il a dit, « Si mon royaume était de ce monde, j'appellerais aussitôt mon père et m'enverrait 12 légions d'anges. Ça aurait pu être changé. Mais comment aurait-il pu le faire? Il ne pouvait tout simplement pas le faire, car c'était ses propres enfants qui criaient pour son sang. Pouvez-vous imaginer un papa, un père, avec ses propres enfants dans les ténèbres, criant pour le sang de leur propre père? C'est la raison pour laquelle il ne pouvait rien faire d'autre que de mourir. S'il ne le faisait pas, c'était la condamnation pour ses enfants, la condamnation pour les créatures. Mais il devait mourir pour sauver son peuple. Et quand il l'a fait, quand il a baissé la tête, cette vieille terre a eu un frisson qui lui a parcouru le dos. Elle doit avoir une prostration nerveuse, car la Bible dit que la terre entière, les sixième à la neuvième heure, était obscure sur toute la face de la terre. Et la terre trembla et les rochers se déchirèrent. Et le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et le bloc de sacrifice se sont renversés. Le Fils de Dieu vivant et mort. Le Fils du Dieu vivant est mort. Il était si mort que le soleil l'a reconnu. Il était si mort que la lune l'a reconnu. Il était si mort que les étoiles l'ont reconnu. Il était si mort que la terre l'a reconnu. Il était si mort que les éléments l'ont reconnu. Les atmosphères l'ont reconnu. Tout devait savoir que c'était le Fils de Dieu, car la parole de Dieu ne pouvait pas faillir. Elle était promise dès le jardin d'Éden. La semence qui écraserait la tête du serpent. Maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-il allé? Quand il a quitté la croix et est allé dans la tombe de Joseph d'Arimathée, il était si pauvre, il n'avait pas d'endroit où poser la tête. Il est né dans une mangeoire avec un mauvais nom qui lui a été associé comme un enfant illégitime. On se moquait de lui, on se raillait de lui sur la terre. On s'est moqué de lui, on l'a rejeté. Et quand il est mort, il a dû mourir par la peine capitale entre deux voleurs. Il n'avait même pas un endroit pour l'enterrer. Il a été enterré dans la tombe d'un autre homme. Le Dieu même du ciel venant sur la terre. Qui pensons-nous que nous sommes? Qui devons souffrir un tout petit peu ce qu'il a fait pour nous? Pensez-y, mon ami. Étudiez-le. Le soldat romain a dit, « Vraiment, c'est le Fils de Dieu. » Le pécheur devait le reconnaître. Jésus a dit, « J'ai trahi le sang innocent. » Il devait le reconnaître. La terre entière l'a reconnu. Alors, où est-il allé? Quand un homme meurt, est-ce que c'est fini? Non, monsieur. Il a dû mourir de cette façon parce que la Bible de Dieu a dit qu'il mourrait de cette façon. Et il a fait confiance à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a pu dire dans sa vie, « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. » Car David a dit à un endroit seulement dans la Bible sous l'inspiration, quand David, l'homme de Dieu, le prophète qui a été oint de la parole, a dit, « Je ne permettrai pas à mon sein de voir la corruption et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. » Jésus a dit, « Détruisez ce corps et je le relèverai en 3 jours. » Il savait que la parole de Dieu ne pouvait pas échouer. Oh là là! S'il pouvait se reposer solennellement sur cela, croyant que la parole de Dieu ne pouvait pas échouer, combien plus fort pouvons-nous nous reposer aussi solennellement, étant nés de nouveau par l'Esprit Saint? Et c'est un témoignage dans notre cœur dès maintenant que nous savons que notre Rédempteur vit et reviendra un jour. Soyez assurés que ceux qui sont en Christ seront amenés par Dieu avec lui. Maintenant, remarquez, il était là. Il savait que pas une cellule de ce corps ne serait corrompu. 72 heures, la corruption s'installe. C'est la raison pour laquelle il n'est jamais resté 3 jours. Il est mort vendredi après-midi, était debout dimanche matin, mais c'était à l'intérieur des 3 jours. Au cours de ces 3 jours, il devait ressusciter parce qu'il avait confiance en la parole de Dieu. Le voici où il est allé quand il est parti. La Bible a dit, il est monté, il est allé prêcher aux hommes qui étaient en prison, qui ne sont pas repenti durant la longue patience du temps de Noé. Son âme, son esprit, la théophanie de son propre être descendirent. Suivons-le. Aimeriez-vous ce soir le suivre quelques minutes? Voyons voir où il est allé. Juste en dessous des régions des êtres mortels se trouve le domaine du pouvoir démoniaque. Au-dessus de cela, juste au-dessus, reposent les âmes des injustes. Au-dessus, où il y a le domaine même de Satan, l'enfer. Alors, juste au-dessus de nous, il y a le Saint-Esprit, puis sous l'autel, il y a les âmes des justes. Ensuite, il y a Dieu lui-même, l'un allant vers le bas, l'autre vers le haut. Les deux esprits sont ici sur la terre, influençant les gens de cette terre. Et quand Jésus est mort, il est monté là-bas. Je peux le voir ce vendredi après-midi, après sa mort. Frappez à la porte des régions des perdus. Suivons-le une minute. La porte s'ouvre. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. Il y avait des jeunes filles. Il y en avait des âgés. Ils étaient tous ensemble dans cet endroit hideux appelé la prison des âmes perdues. Si j'avais le temps, j'aimerais vous le dire. Et ça pourrait être juste une vision. Mais une fois, j'ai visité cet endroit. Et j'ai crié pour sa miséricorde quand j'étais un pécheur qui subissait une opération. Quand je suis sorti, je me tenais à l'ouest, les mains vers le ciel, une croix brillait sur moi. Mais dans ce lieu lugubre, Jésus se dirigeait vers la porte. Tout devait témoigner qu'il était le Fils de Dieu parce qu'il avait été prêché dans la longue patience du temps de Noé. Il frappe à la porte. Il a dit, « Je suis celui dont Enoch a parlé. Je suis la semence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Chaque parole de Dieu a été accomplie. Je viens de mourir là, au calvaire, et j'ai racheté mon église. » Et celui dont Enoch a parlé, je le suis. Et ils étaient sans pitié, sans espoir, parce qu'ils avaient transgressé et la porte leur fut fermée au visage. Descendu dans les régions des démons, jusqu'aux portes de l'enfer, il frappa la porte. C'est quand il était dans la tombe. Son corps l'était, attendait la résurrection. Il a visité les endroits où les justes et les injustes vont. Où vous passerez un de ces jours ou l'un ou l'autre endroit. Et il frappe. Et quand il l'a fait, le diable est sorti. Et je peux l'entendre dire, « Oh! Alors finalement, tu es arrivé. Je pensais bien que je t'avais quand j'ai tué Isabelle. » Vous voyez, quand cette semence a été promise dans le jardin d'Éden, le diable a constamment essayé de détruire cette semence. Et la mort d'Abel et la venue de Seth n'étaient qu'une mort, un ensevelissement et une résurrection du Christ. Cette semence doit continuer, il a essayé de la détruire. Il a dit, je pensais que je t'avais quand j'ai détruit Abel. Je pensais que je t'avais quand j'ai détruit les prophètes. J'étais sûr de t'avoir quand j'ai décapité Jean, mais maintenant, après tout, tu es arrivé. J'étais maintenant, oh là là, je peux l'entendre dire, « Satan, viens ici !» Il est le patron maintenant. Il tend la main, saisit cette clé de la mort et de l'enfer de son côté, l'accroche à son côté à lui. « Je veux te signifier un avis. Tu as été un bluff assez longtemps. Je suis le fils né de la Vierge du Dieu vivant. » Mon sang est encore humide sur la croix et la dette entière est payée. Tu n'as plus aucun droit. Tu es dépouillé. Donne-moi ces clés. C'est vrai. Il se retourne et lui donne un bon coup de pied avec vivacité. Claque les portes ensemble et dit, reste là. Je suis le patron à partir de maintenant. Maintenant, il n'avait pas les clés du royaume parce qu'il les a données à Pierre. Nous recevrons tous cela au matin dans le baptême d'eau. Mais il avait les clés de la mort et de l'enfer. Il les a prises après sa résurrection. Il a dit, j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Pierre avait les clés du royaume. Satan avait les clés de la mort et de l'enfer. Mais maintenant, Jésus les a. Il est le patron. Ici, il commence. Pâques arrive. Le temps passe vite. Mais il y a un autre groupe. Où est Job? Où est Abraham? Où sont-ils? Où sont ses compagnons qui ont fait confiance à la parole de Dieu? Les a-t-il oubliés? La mort les a-t-elle anéantis? Était-ce tout? Jamais! Jamais! Dieu doit garder sa parole. Je peux le voir. Jetons un coup d'œil au paradis. Regardons là-bas. Et je vois Sarah et Abraham qui marchent là. Et après un moment, quelqu'un à la porte. Abraham va ouvrir la porte. Dit, chérie, viens ici. Regarde par ici. Regarde par ici. C'est celui-là même qui était avec moi sous le chêne ce jour-là. C'est le Dieu d'Abraham. Juste à ce moment, je peux voir Daniel regarder par-dessus son épaule et dire, c'est le rocher qui s'est détaché de la montagne. Aussi certain que je suis ici. Je vois Job se lever et dire, c'est mon Rédempteur dont j'ai dit que je savais qu'il vivait et qu'un jour il se tiendrait sur la terre. Mon corps ne sera peut-être qu'une petite cuillerée de cendre, Mais d'ici 15 minutes, je serai à nouveau dedans. C'est lui. Ézéchiel regardait par-dessus et dit, j'ai vu cette même personne comme une roue au milieu de la roue, tournant au milieu de l'air. Oh là là. Ensuite vient Enoch. Enoch dit, je l'ai vu venir avec 10 000 de ses saints pour exécuter le jugement. Il y avait les saints de l'Ancien Testament qui attendaient, bien sûr, sous l'expiation du sang. Ils ne pouvaient pas entrer dans la présence du Dieu du ciel, parce que le sang de chèvre et de mouton ne pouvait pas enlever le péché. Mais il dit, mes frères, je suis celui qui... Vous pensez que je suis la semence de la femme, je suis le fils de David, je suis le fils de Dieu, je suis celui né de la Vierge, mon sang a expié cela. Vous avez attendu sous le sang des moutons et des chèvres, mais maintenant, mon sang expie et vous êtes libre. Allons-y, c'est presque Pâques, pensez-y. C'était là il y a à peu près 1900 ans. Et que ce soit, je peux entendre Abraham dire, « Seigneur, quand nous nous relevons dans notre corps, Sarah et moi aimons tellement ça, ça te dérangerait que nous fassions un petit arrêt au sifflet, en quelque sorte sur la route? » Eh bien, je peux l'entendre dire, « Voyons, non, certainement pas. Je vais rester avec mes disciples pendant environ 40 jours. Promenez-vous autour et voyez de quoi tout à l'heure. En ce matin de Pâques glorieux, où nous continuerons demain matin, le Seigneur voulant, quand il est ressuscité des morts, et la Bible a dit, selon Matthieu 27, que beaucoup des saints qui dormaient dans la poussière de la terre se sont levés et sont sortis des tombes. Qui était-ce? Abraham, Isaac, Jacob, Job. Ceux qui sont par révélation spirituelle savaient que le Rédempteur se tiendrait sur la terre un jour. Ce sont eux les premiers fruits de ceux qui ont dormi. Là, ils ont marché dans la ville. Je peux voir Sarah et Abraham, jeunes, beaux et pleins de vie. Pour ne jamais vieillir, plus jamais être malade, plus jamais avoir faim, se promener dans leur corps. Caïphe se tenait là et disait, vous savez quoi, il y a eu quelque chose qui s'est passé l'autre jour. Regardez dans quel gâchis se trouve ce temple. Nous allons devoir trouver quelqu'un pour coudre ce rideau. Regardez là, le bloc de sacrifice s'est renversé. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce que ce gars-là était? Un astrologue ou un sorcier? Ou que s'est-il passé? Et viens ici, Josephus. Qui est ce jeune couple là-bas? Abraham a dit, Sarah, on nous a reconnus, nous ferions mieux de partir. Apparu à plusieurs. Ce n'était pas tout. En terminant, regardez un jour après ils ont eu une visite. Abraham, Isaac, Jacob et tout, ils ont visité la partie quand Jésus est monté. Vous dites, frère Branham, est-ce un mythe? Non, monsieur. Je vais vous montrer dans l'Écriture, dans une minute. Quand il a commencé à monter, il ne voyait que lui. Mais les saints de l'Ancien Testament étaient avec lui. Car la Bible a dit, il a amené des captifs et donné des dons aux hommes. Et je peux le voir comme il monte et se joint à son Église. Deux anges du groupe qui jouaient de la musique sont revenus là et ils ont dit, « Vous, hommes de Galilée, pourquoi levez-vous les regards? Car ce même Jésus qui a été repris va revenir. Certainement, ils s'empressèrent de se joindre à la procession. Et à travers les cieux, Jésus et les saints de l'Ancien Testament sont allés. Ils ont dépassé la lune. Ils ont dépassé le soleil. Ils ont dépassé les étoiles. Et quand ils furent en vue de ces grands et beaux cieux blancs, les saints de l'Ancien Testament crièrent, citant l'Écriture, « Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. » Que le roi de gloire fasse son entrée. Tous les anges se rassemblèrent sur le haut des rampes du ciel et dirent, « Qui est ce roi de gloire? » Les saints de l'Ancien Testament dirent, « L'Éternel des armées, puissant dans la bataille. » Il était un conquérant. L'ange appuya sur le gros bouton et les portes perlées s'ouvrirent. À travers la ville de Jérusalem s'avance le grand et puissant conquérant, amenant les saints de l'Ancien Testament. Les groupes angéliques jouent alors que les anges crient de joie. Ils étaient le puissant conquérant. Ils avaient les clés de la mort et de l'enfer suspendues à son côté, passant devant les palais de gloire jusqu'à ce qu'il arrive au trône. Il dit, « Père, les voici, ils ont cru par la foi en ta parole que je viendrais un jour. J'ai vaincu la mort et l'enfer. » Qu'est-ce que c'était, frère? Ils avaient la cicatrice dans sa main pour montrer qu'il avait été dans la bataille. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il est ce puissant conquérant. Les voici, Père. Abraham, Isaac et Jacob. Je peux l'entendre dire. Fils, monte ici à mon côté et assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Frère, un jour, il reviendra. Et quel jour ce sera? Il n'était pas sans rien faire quand il était dans la tombe. Nous pensons qu'il était juste la mort, mais il était encore en train de conquérir. Il est descendu et a enlevé les clés à Satan. Il a les clés de la mort et de l'enfer ce soir. Il a dit, parce que je vis, vous pouvez vivre aussi. Je me demande ce soir, mon cher frère, ma sœur, avez-vous repensé à cela sincèrement? Réalisez-vous que vous vivez seulement parce qu'il vit? L'avez-vous assez apprécié pour vous offrir vous-même et dire, Dieu, me voici un pécheur, sois miséricordieux envers moi. Avez-vous déjà accepté ce sacrifice entièrement suffisant? Mais avez-vous déjà dit que vous l'aimiez? Est-ce que cela blesse vos sentiments quand vous faites le mal? Si vous n'êtes jamais venu à cette expérience maintenant, dans cette mise au tombeau, comme notre temps s'éclipse, vous vous sentez bien, mais je me demande si vous n'avez jamais reçu Christ comme votre sauveur personnel. Je me demande si vous le feriez pendant que nous inclinons la tête, juste un moment, pour un mot de prière. Jouez ceci, mid-rendering rock, si vous le voulez. Ce jarty, si vous l'avez, d'accord, ça ira. Avec la tête inclinée, je vais vous poser une véritable question sincère. Souvenez-vous, amis pêcheurs ou saints, vous n'êtes pas hors d'existence quand nous vous enterrons. Votre âme est quelque part. Maintenant, Jésus a visité les deux endroits selon les Écritures. Où vous trouverait-il si vous partiez ce soir? Auriez-vous la porte de la miséricorde fermée au visage parce que vous l'avez rejetée? Rappelez-vous, non seulement est-il un sauveur, il est aussi un juge. Vous êtes le juge maintenant. Comment le jugez-vous? Laissez-le être votre sauveur maintenant. Une petite histoire m'est venue à l'esprit. Il y a quelque temps, un petit garçon était assis dans un wagon. Un coup de feu a été tiré dans la rue. Les chevaux s'enfuirent et allèrent en direction d'une falaise. Un jeune cow-boy a couru et arrêta les chevaux juste avant que le chariot ne tombe de la falaise, parce qu'il y avait un bébé dedans. Il a sauvé la vie du petit. Plusieurs années après le début, debout dans le palais de justice, ce même garçon avait commis un crime et avait pris le chemin qui était mauvais, coupable. Il buvait, jouait et tirait un homme et était coupable, reconnu coupable, et le juge s'est levé et a dit, « Je te condamne à être pendu jusqu'à mort sans suivre. » Et ce jeune homme, « Juge! » Il a brisé le déroulement de la cour alors qu'il sauta par-dessus le bastingage et tomba aux pieds du juge, implorant miséricorde. Il a dit, « Juge, regarde mon visage, tu ne le reconnais pas? » Il a dit, « Non, fiston, je ne crois pas. » Il a dit, « Vous vous souvenez de la vie d'un petit garçon que vous avez sauvé il y a de nombreuses années à cause d'un cheval en cavale? » Il a dit, « Oui, je m'en souviens. » Il a dit, « Je suis ce garçon. » Il a dit, « Juge, vous m'avez sauvé, alors sauvez-moi maintenant. » Le juge regarda et dit, « Fiston, ce jour-là, j'étais ton sauveur. Aujourd'hui, je suis ton juge. Aujourd'hui, il est votre sauveur, pécheur. Demain, il peut être ton juge. Pensons-y maintenant comme la musique joue et que chacun prie, que ceux qui sont dans cette condition de prière avec Dieu. Je me demande ce soir maintenant rapidement, ceux qui voudraient accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, dites, Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. Je veux venir par le sang versé. J'en ai assez de me joindre à des églises et de courir d'un endroit à l'autre. Je veux être né de nouveau. Je veux une expérience dans mon cœur pour que je sache que Christ s'est révélé lui-même à moi par la révélation spirituelle dont vous venez de parler, frère Branham. Je veux la révélation spirituelle, le Saint-Esprit dans mon cœur, me rendant vivant, rendant Christ plus réel pour moi que je ne le suis pour moi-même. Je désire cette expérience, frère Branham. Voulez-vous prier pour moi comme je lève ma main? Voulez-vous lever la main maintenant, vous qui désirez qu'on se souvienne de vous? Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse là-bas en arrière, madame. C'est bien. Que Dieu vous bénisse, monsieur. C'est bien. Levez vos mains maintenant. Continuez avec vos mains levées. Comment pourrait-il avoir honte? Pourrais-tu rejeter une telle chose, mon ami? Souvenez-vous. Vous entendrez votre dernier sermon, franchement. C'est peut-être votre dernier. Oh, vous dites, je suis jeune, ça n'a pas d'importance. La mort n'a aucun respect de la personne ou de l'âge ou de la capacité. L'accepteriez-vous maintenant comme sauveur personnel en levant votre main, disant, Dieu, sois miséricordieux envers moi. Levez vos mains avec le reste d'entre eux et dites, maintenant, je veux accepter Christ. Voulez-vous lever la main? Quelqu'un qui est rétrograde, dites, Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je veux revenir à Christ ce soir. Demain pourrait être une résurrection nouvelle pour moi. Souhaitez-vous lever la main? Levez la main. Dites, sois miséricordieux envers moi. Je veux venir maintenant. Voulez-vous le faire? Levez la main. Dites, j'ai été rétrograde, mais ce soir, que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. J'accepterai Christ comme mon sauveur personnel. Je vais l'accepter ce soir. J'ai erré plusieurs années loin de Dieu, mais maintenant, je rentre à la maison. L'accepterez-vous ce soir pour que cela soit une nouvelle résurrection pour vous, pour que votre ancienne vie soit finie? Cette dame monte vers l'autel pour faire sa confession, pour prendre possession, position. Quelqu'un d'autre veut prendre sa place ici? Venez ici avec elle sur leur confession. Voulez-vous vous lever et venir à l'autel aussi? L'autel est ouvert, certainement. Venez directement maintenant. Si vous voulez vous tenir ici et prier, ce serait très bien. Voudriez-vous sur la confession de votre foi, sur votre croyance dans le Fils de Dieu? Viendrez-vous maintenant? Très bien. Cela dépend de vous. Souvenez-vous, vous êtes une personne concernée. Êtes-vous un pécheur? Êtes-vous un rétrograde? Êtes-vous froid et loin de Christ? Voulez-vous ressusciter avec lui maintenant, recommencer votre vie? Qu'en est-il, vous, maris et femmes, qui êtes restés longtemps à l'écart, argumentant dans votre maison, ne reviendrez-vous pas redresser cette chose avec Dieu, l'un avec l'autre, maintenant, faites de Pâques, vraiment un Pâques pour vous, commencez un nouveau foyer, qu'en est-il de vous qui n'avez jamais été, n'avez jamais eu de prière dans votre maison, vous rendrez simplement de l'église, essayez de vivre le mieux que possible, ne rassemblez jamais la famille pour prier, c'est pourquoi nous avons de la délicatesse juvénile et des choses que nous avons. C'est pourquoi les maisons américaines sont brisées. Ne voulons-vous pas partir à nouveau ce soir? Le ferez-vous? Alors que nous avons la tête inclinée maintenant pour la prière, notre bien-aimé Père Céleste, ce soir nous t'apportons cette audience dans la solennité sacrée, la plus solennelle que nous connaissons. Nous nous approchons humblement de ton trône. Et après le message de ce soir, cette grande mise au tombeau, il n'a jamais gardé le silence. Son âme est allée droit dans les régions et a terminé l'œuvre de Dieu qu'il était ordonné de faire. Et demain matin, nous verrons où il a traversé les sphères ci-dessous en conquérant tout dans sa résurrection. Mais il est sorti le matin de Pâques pour notre justification. Et nous découvrons qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour condamner les hommes de péché. Et nous prions ce soir, Seigneur, que tu te souviennes de ceux qui ont levé leurs mains, puisse leur décision venir dans leur cœur ce soir, qu'ils ont reçu et qu'ils te croient et qu'ils soient scellés ce soir par le sceau de la promesse ce soir et le Saint-Esprit accorde le Père quand nous le confions à toi avec ce message ce soir, puisse-t-il bénir ceux qui l'ont entendu, ceux qui, Seigneur, l'amèneront chez eux et le planteront profondément dans leur cœur, puisse-t-il vivre de la parole de Dieu, accorde le Père quand nous le demandons dans le nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.